Salut Dédite, la vieille socialo, la vieille internationaliste. Salut aux auditeurs de là-bas si j'y suis. C'était très bien fait, vraiment très bien fait, le reportage au pied du mur. Trop bien fait, trop lisse, trop image d'Épinal pour faire avancer la paix d'un iota. Bien sûr que ce mur est un constat de faillite, mais c'est celui de notre faillite. À nous, qui braillons derrière Chirac et le Quai d'Orsay, paix au Proche-Orient, mais sommes pas fichus d'abandonner la langue de bois. De dire que le Hamas et le djihad islamique sont des fachos, que leur programme est l'épuration ethnique des Juifs d'Israël. Que les attentats suicides, c'est la barbarie. Oui, le mur est un mal. Mais qu'est-il par rapport au mur de haine qui encercle Israël et les Juifs? Daniel, tu dis que Qalqiya est un ghetto, mais tout Israël est un ghetto. Un ghetto super armé, mais un ghetto quand même. Daniel, tu dis que quand on voit le mur, on est en plein cauchemar. Mais quand tu vois une femme se faire sauter à côté d'une poussette dans un resto de Haïfa, tu n'es pas dans un cauchemar mille fois pire. Daniel, quand t'as un Palestinien qui souffre de la construction du mur et qui te dit « Nous les Palestiniens, on a tous les droits », toi tu réponds « Oui, vous n'avez rien à perdre, as-tu vraiment bonne conscience ?» Tu n'as pas su répondre « Non, vous n'avez pas de droits supérieurs aux millions d'humains qui souffrent et crèvent sur la planète et dont on ne parle même pas. » La vraie solidarité envers les Palestiniens, c'est de leur dire en ami « Non, vous n'avez pas le droit de massacrer les civils israéliens. » Sinon, il y a non-assistance à deux peuples en danger de destruction totale.
Salut Daniel, merci pour ton émission. Merci pour ces très beaux reportages en Israël sur le rapprochement entre Palestiniens et Israéliens confrontés à la même souffrance. Je voulais simplement, sur ce répondeur, condamner les attentats terroristes commis par l'armée israélienne les vendredis 10 octobre et samedi 11 octobre à Rafah, je crois. Ils ont fait 14 morts en tout, 40 blessés, des centaines de maisons détruites. Aucune condamnation de la part des autorités françaises, ça m'étonne. Les journalistes traitent cette information entre 4 ou 5 autres informations comme un fait banal. Rien à voir avec ce qui s'est passé à Haïfa. Simplement, je voulais dénoncer ce traitement inégal de l'information. Voilà. Et puis, je voulais poser cette question un petit peu à Israël et aux Juifs croyants, cette question que Dieu pose à Caïn dans la Bible, qu'as-tu fait de ton frère?
Oui, Daniel Mermet, je vous appelais là pour réagir à votre émission. Moi, je voulais vous poser deux questions. Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais fait d'émission sur les pays arabes qui n'ont jamais voulu d'un État d'Israël entre 1948 et 1967, jamais, hein, où l'État, la vie même de l'État d'Israël était toujours menacée. Et puis, deuxième question, c'est pourquoi les Palestiniens n'ont-ils pas voulu créer un État dans ce qu'on appelle maintenant les territoires occupés entre 1948 et 67. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Voilà, merci.
Bonjour, je suis en train d'écouter l'émission sur Israël et le mur. Je voudrais simplement vous dire mon étonnement du caractère très partial qui est celui de la présentation du problème. Vous le présentez d'une manière unilatérale. Et les choses sont beaucoup plus complexes que vous ne le laissez entendre. Vous jouez sur les motifs sans permettre à l'auditeur de comprendre la raison d'être, par exemple, qui a abouti à ce mur dont on peut penser, sur lequel on peut avoir plusieurs avis. Mais la façon dont vous présentez les choses n'est pas honnête et elle participe, me semble-t-il, d'un mouvement d'opinion très suspect que vous ne devriez pas entretenir de cette manière, notamment pour tout ce qui touche au problème du Dévara.
Bonjour Daniel et toute l'équipe. Voilà, je viens d'écouter ton émission et je suis très touchée par ce mur de la honte. Là, vraiment, c'est bon, suite à d'autres émissions que tu avais faites sur la situation là-bas. Mais là, vraiment, je me dis que ça devient délirant, quoi. Il y a des murs, il y en a eu d'autres dans l'histoire et c'est tellement insupportable et qu'en détruisant tout ce qui avait pu être un petit peu acquis, encore tant soit peu, c'est mis en danger, mais Ah, c'est... Voilà, donc juste partager cette émotion et peut-être te poser la question aussi, puisque tu es peut-être plus informé que nous, au moins que moi, quelle pression, quel lobbying on pourrait exercer, parce qu'après tout, il y a des droits internationaux et effectivement, Israël est en train de faire n'importe quoi au-delà de ses droits, quoi. Donc, c'est pas possible, c'est absolument pas possible. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao.
Ouais, Marmée, là, par rapport à tes reportages sur le conflit israélo-palestinien, là, que je viens d'écouter sur Internet, sur le site pirate d'ailleurs, que je déconseille fortement à tous les auditeurs. Je dis bien que je déconseille, hein. Non, c'est un super site. Ouais, je voudrais juste te dire une chose, c'est que, on pourrait, je sais pas si on peut résumer ainsi, le conflit israélo-palestinien, parce qu'il y a énormément à dire encore, mais il y a une phrase de Willy Brandt, qui me semble très intéressante. Par rapport à tout ça, c'est donc en fait c'est ne l'oubliez jamais, celui qui laisse se prolonger une injustice ouvre la voie à la suivante. Voilà, Willy Brandt, prix Nobel de la paix en 71, je crois. Salut.
Voilà, des messages, des réactions sur le répondeur de la Bastille ici. Vous avez compris, suite à la série d'émissions de reportages actuels, c'est-à-dire le conflit israélo-palestinien, Israël au pied du mur, des réactions vives, mais respectueuses, et ça me suffit, du moment que ça reste dans un cadre respectueux, et ben c'est bien, c'est un débat, il faut en parler, on a le droit d'avoir des opinions, je crois même que on en a beaucoup dans sur ce domaine et qu'il est absolument indispensable d'en parler, d'exprimer, de pas se laisser intimider ni inhiber par ceux qui pensent avoir le monopole des autres. Donc continuer à utiliser le répondeur de la base, j'y suis, 01 56 40 37 37. Aujourd'hui on continue le long du mur, mais on va aller plus au sud, en Israël, à Netivot, chez une petite entreprise qui se porte très bien grâce à ce mur, puisqu'on y fabrique des barbelés. Et puis, commentaire sur ce mur, analyse sur ce mur, celui d'Ilan Alevi, et qui est un proche d'Arafat, qui est juif et palestinien à la fois, et francophone aussi, un personnage tout à fait... étonnant, avec une analyse bien à lui, mais qui, je pense, est susceptible de vous intéresser. Auparavant, d'autres messages, 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel Marmet, bonjour la Bassive ici, c'est Karine à Avignon. J'ai écouté tout à l'heure les messages sur le répondeur, et notamment Amandine, qui, comme elle dit, commence à lire les journaux, et puis se rend compte de l'ampleur des dégâts. Daniel, tu as dit que de pas trop se miner. Alors c'est clair, faut pas trop se miner, mais c'est pas facile, je trouve, de trouver l'équilibre entre pas trop se miner d'un côté, puis d'un autre côté rester consciente, informée, et puis participer un petit peu à faire évoluer les choses. Je crois qu'on est pas mal parmi les 16, 25, 30 ans à être flippé, et puis à vouloir faire quelque chose. On sait pas trop par quel bout prendre le nœud à merde qu'est cette société mondiale et libérale. Puis en même temps, faut réussir à avoir un boulot. Alors, il y en a qui vont se câbler de tous les côtés, portable, satellite, Star Academy, radio, mais surtout pas France Inter. Ils vont filtrer tout bien les infos qu'ils veulent capter, puis pour arrêter de stresser, puis d'être agressés par les mauvaises nouvelles. Et puis il y a les autres qui veulent continuer à savoir ce qui se passe dans le monde, et puis qui voudraient s'y sentir bien. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon courage à tous. Salut.
Bonjour Daniel Mermet. Le président de la République est de retour du Maroc. Il a rendu visite à son ami le roi, le fils de feu, son ami le roi. Il lui a donné tout plein de bons points. Tout va bien au royaume de la misère pour le plus grand nombre. Mais on n'a pas parlé du journaliste Ali Mhlabet, condamné à 3 ans de prison, ni de son journal interdit. Ça, c'est une affaire intérieure. Ceci ne nous regarde pas. On n'a pas parlé des disparitions forcées qui reprennent vigueur. Et pour cause, c'est la lutte antiterroriste. Ah, on a parlé du Sahara occidental, dernier pays colonisé d'Afrique. Et là, on est sur la même longueur d'onde que l'occupant qui veut rester coûte que coûte. Daniel Mermet, j'espère que tu n'es pas de ceux qui évitent d'aborder ce sujet tabou dans les médias français. On y évoque rarement la question des 160 000 réfugiés qui restent en Algérie et qui attendent un référendum promis depuis 1992. Mais sur ce qui se passe au Sahara occidental sous occupation, motus. Alors vas-y Mermet, C'est une belle et juste cause que celle du peuple sahraoui qui revendique pour son droit à l'indépendance depuis 30 ans. Salut. C'est l'Association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique.
Ouais, Daniel, on est dans une manifestation donc à Centrafrique parce que on est une petite ville, peut-être que tu en as entendu parler, on n'est pas loin de l'Arzac, c'était sur l'Arzac cet été, et nous ici on est en train de nous faire sauter notre hôpital et par la suite tout ce qui va avec. Donc on est en pleine manifestation, peut-être aussi l'entendra, il y a un ou et on bloque devant la gendarmerie les voitures.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Guy Ventil, Israël au pied du mur.
Flight number 2, arriving from...
Et alors, il y a un officier de l'armée israélienne, avec beaucoup d'imagination, a même parlé de la possibilité d'établir un grand fossé avec des crocodiles.
Ça vous pose aucun problème de fabriquer des barbelés ?
Non, pas du tout.
Aucun problème.
Je pense que faire une clôture, c'est un acte patriotique.
La clôture patriotique.
Le ghetto, la valise ou le fusil. Trois paysans palestiniens regardent un champ d'oliviers. Le ghetto, la valise ou le fusil. Des oliviers vieux d'un siècle, ou deux, ou trois. La récolte, c'est maintenant, c'est en octobre. Mais pas cette année, pas de récolte cette année. Les trois paysans palestiniens regardent le champ d'oliviers à travers des barbelés. Un mur de barbelés, enfermés, rétrécis, prisonniers, coupés de leur terre, coupés de leur eau, coupés de leurs oliviers. Palestine confetti, Palestine peau de chagrin, Palestine bantoustan, espèce de camp, réserve d'indiens, amer, très amer, les trois paysans palestiniens qui regardent leurs oliviers à travers les barbelés. Mur. C'est eux qui disent le mur, mur de la honte, mur de l'apartheid, mur de la colère, mur de la prison. Mais pour les constructeurs du mur, ce n'est pas un mur. Et d'ailleurs, à ce propos, attention, bientôt dire mur risque de faire de vous un antisémite, je vous le dis. Même si, pour le gouvernement de Sharon, les Français sont tous antisémites, ça ne fera que confirmer. Pour ne pas être antisémite, il faut dire... zone de séparation ou encore barrière provisoire de sécurité. C'est la vérité, puisque c'est le gouvernement israélien qui le dit, c'est lui qui a décidé unilatéralement la construction de cette zone provisoire de sécurité. Unilatéralement, ça veut dire d'un seul côté. De l'autre, les trois Palestiniens, les trois paysans palestiniens regardent leurs oliviers à travers... les barbelés. Et les trois paysans palestiniens pensent à trois choses. L'un pense à partir, l'autre pense à mourir, là, et le troisième pense à se battre. La valise, le ghetto, le fusil, guerre d'autre choix. Évidemment, du côté de ceux qui construisent le mur et de ceux qui soutiennent ceux qui construisent le mur, c'est pas ça du tout. Ils disent, d'abord, construisons une clôture et après, on pourra négocier. Et pas mal d'Israéliens y croient. Une majorité d'Israéliens y croient. Pour l'instant, la clôture, disent-ils, permettra l'arrangement politique. Mais, un défi. Trouver un Palestinien qui y croit. Un seul Palestinien qui y croit. C'est embêtant. si on veut aller vers un arrangement politique, si on veut aller vers des négociations, pas un seul qui y croit. Écoutez les trois paysans palestiniens qui regardent leurs oliviers à travers les barbelés. Ils disent ceci. Si nous ne pouvons pas avoir un État viable, alors il faudra bien faire quelque chose de nous. Et nous deviendrons plus ou moins citoyens d'Israël. Citoyens, puisque Israël est une démocratie. Et une démocratie, c'est un homme, une voix. One man, one vote. Mais il y a un problème. Un problème qui hante cette région, qui est au cœur du nœud du conflit, c'est la démographie. Car bientôt, disent les trois paysans palestiniens, nous serons plus nombreux que les juifs israéliens. En 2010, nous serons plus nombreux. Et donc, ce sera la fin de l'État juif. Le grand Israël sera la fin de l'État juif. Il faut donc soit nous pousser à partir, et le mur nous pousse à partir, c'est le rêve de ceux qui veulent le transfert des Palestiniens. No Arab, no problem. On peut lire ce slogan un peu partout. Ou alors, il faut un État palestinien viable, dans des frontières sûres, avec de la terre, de l'eau et des oliviers. Voilà pourquoi nous sommes là à nous demander pourquoi ce mur. Pourquoi ce mur ? C'est jusqu'à 18h et c'est dans la basse suggestion. C'est le mur version béton.
7 mètres de haut. Et il y a tous les quelques centaines de mètres un talus.
Ah,
qui est exactement à la hauteur, c'est-à-dire lorsqu'une Jeep monte sur le talus, sa mitrailleuse lourde est exactement à la hauteur du mur. C'est pour tirer de l'extérieur sur l'intérieur, puisque de l'autre côté du mur, on a la ville de Kalkilia.
Ah oui.
Et il y a aussi, tous les quelques centaines de mètres, un mirador. C'est ces tours à Kerstein.
Des tours
construites par la compagnie Ackerstein, comme le mur d'ailleurs, c'est une compagnie de béton.
Israélienne.
Mais comme ils ont une chaîne de production, il y a trop de tours. Alors maintenant, il y en a partout dans le pays. On met des tours, ce genre de tours très hautes, très moches. C'est des éléments composés. On peut la faire deux fois plus haute, trois fois plus haute.
Modulable.
Et à l'intérieur, il y a une petite salle de bain. On peut vivre dans cette tour.
Je crois qu'il y a trois niveaux de signification de ce mur. Il y a le premier niveau qui est celui dont j'ai parlé, qui est le niveau idéologique par rapport à la vision israélienne du conflit. aussi à l'absence totale d'espoir de paix, à la vision du conflit et de l'étanchéité comme définitif. Bon. Il y a un deuxième élément qui est l'élément concret sur le terrain de ce que ça fait dans la vie des gens sur les terres desquelles le mur passe. Et il y a un troisième élément qui est l'élément politique, la signification politique de ce mur. La signification politique de ce mur, c'est tourner le dos aux négociations, annexer de fait la moitié du territoire palestinien, en Cisjordanie, et miser sur la poursuite de l'affrontement sur des décennies à venir. À ce propos, la réaction très très négative du président Bush, lorsque Abou Mazen lui a apporté la carte du mur, elle est tout à fait significative, parce que sa réaction a été: avec ce mur, il n'y a plus de place pour l'État dont je rêve, puisqu'il a eu une vision dont il a fait part au monde de deux États vivant côte à côte. Or, il voit très bien que ce mur est incompatible avec un État palestinien. C'est le contraire d'un État palestinien. Et maintenant, il y a une bataille discrète et feutrée et polie, mais une bataille quand même, entre l'administration américaine et le gouvernement israélien.
Finalement, c'est très simple, hein. Il y a juste cette machine, ces bandes de tôle qui arrivent, dans cette machine qui découpe la bande de tôle, qui la découpe et qui lui donne la forme d'un barbelé avec des petits couteaux. Là, c'est fini la fabrication à ce stade-là.
Là, c'est simplement pour faire le fil de fer lui-même.
D'accord.
Avec des petits couteaux.
Et ensuite,
ils en font des rouleaux.
Ah, d'accord. Là, c'est la fabrication des rouleaux, là. C'est la première fois de ma vie que je vois une usine de barbelés. C'est assez manuel, hein. C'est manuel, là. Il y a tout un travail manuel pour attacher entre la bande avec les petits couteaux, le fil avec les petits couteaux et le fil rond, quoi. Et on l'attache l'un sur l'autre. Là, c'est quand même quelque chose, là. Il a carrément le drapeau israélien. Hein, au-dessus de la fabrication des barbelés, sur la machine à faire des barbelés, il y a un drapeau israélien. Je crois que ça résume pas mal les choses, quand même. C'est la meilleure clôture du monde, aussi légère que l'air, plus forte que le whisky, moins chère que la poussière, tout en acier et longue de plusieurs kilomètres. Le bestiau n'est pas né qui pourra passer au travers. Messieurs, relevez le défi et amenez vos bœufs. Ainsi, au Texas, dans les années 70, s'exprimait John Wong Gates, un vendeur de barbelés. Eh bien, les bœufs, là, en question, ont été remplacés par des Palestiniens. Passeront-ils au travers? Toute la question est là. Là où nous sommes, c'est à Netivot, une ville vers le sud d'Israël, dans une entreprise qui s'appelle Masorot. Et chez Masorot, qu'est-ce qu'on fabrique? Vous avez compris, des barbelés. Des barbelés pour quoi faire? Eh bien, pour construire, enfin, qui accompagne cette barrière de sécurité qui va séparer la Cisjordanie du reste d'Israël. L'entreprise Masorot, eh bien, c'est une petite entreprise avec un patron très, très sympathique, un type très ouvert. 15, 20, peut-être 30 salariés, donc une petite entreprise. Et donc voilà, il y a des commandes qui abondent, alors que Israël, le climat n'est pas terrible en ce moment. Il y a la peur des attentats, il y a la crise sociale, il y a une économie en berne. Mais chez Masorot, à Netivot, tout va bien, le barbelé va. Ce dont vous êtes fier, c'est d'avoir inventé un système qui permet de concentrer le fil de fer barbelé sur un espace très réduit, sur 3 mètres de barbelé. Vous pouvez dérouler 300 mètres. C'est ça votre invention.
C'est exactement ça.
On arrive même
je vous dis phrase les choses pour plus.
On arrive même parfois à le concentrer, à le réduire à 2 mètres et demi pour les mêmes 300 mètres.
Ça, c'est la grande invention.
C'est pas l'invention du siècle, mais c'est une bonne invention. Et l'armée américaine s'y intéresse vachement. Parce que notre invention est inscrite aussi aux États-Unis.
Combien est-ce que vous fabriquez de kilomètres de barbelés comme ça par jour?
C'est pas des, on fait pas des kilomètres de. Mais des kilomètres de pyramide. On fait 2,5 kilomètres par jour de pyramide.
2,5 kilomètres par jour.
Donc pyramide. Ça fait 6 fois. 2,5 kilomètres multiplié par 6.
Ah, ça produit beaucoup, là.
Oui, vraiment, on a une bonne productivité.
Et vous arrivez à fournir...
Oui.
Vous avez encore combien de mois de travail?
Shlav Aleph.
La première tranche.
Le projet. Olech Ligamer.
Est sur le point de se terminer.
Shlav Aleph, il y a 120 kilomètres.
C'était 120 kilomètres.
Et maintenant...
La deuxième tranche est en préparation, est en planification.
Qui
va aller de Elkana, où vous étiez hier, jusqu'à Jérusalem. Jusqu'à Arad, dans le Negev, dans le sud.
Ça fera combien de kilomètres au total?
200 kilomètres.
Ensemble, ça fera environ 200 kilomètres.
Au total, vous aurez fourni 200 kilomètres de pyramide, c'est-à-dire...
Ils auront fait deux fois, puisqu'ils font les deux côtés.
Ah oui,
c'est deux fois.
C'est
400 kilomètres de pyramide, donc 400 multiplié par 6 kilomètres de barbelés.
2400 kilomètres de barbelés.
Oui.
Ça vous pose aucun problème de fabriquer des barbelés?
Non, pas du tout. Aucun problème.
Ça ne vous semble pas quelque chose d'un peu symboliquement, hein, comme symbole? Surtout là, sur cette terre d'Israël, mettre une frontière au milieu d'Israël comme ça.
Je ne suis pas de la génération de l'Holocauste. Je ne suis pas de cette génération. Ni les parents non plus. Parce qu'ils venaient de Bulgarie, en Bulgarie. Les juifs de Bulgare n'ont pas souffert de l'Holocauste. Mais malgré tout, je comprends très bien le symbolisme, ce que signifie pour le peuple juif des barbelés. Mais ça ne me dérange pas. Pour participer à la construction de la clôture. Parce que je crois que le seul moyen pour arriver à une solution, quelle qu'elle soit, c'est la partition du pays entre les deux peuples et se séparer des Palestiniens, faire une barrière entre eux et nous jusqu'à ce que de l'autre côté un partenaire avec qui on peut faire la paix, mais une vraie paix sans terrorisme et sans vol et sans corruption comme il y a aujourd'hui dans l'autorité palestinienne. Mais quand il y aura de l'autre côté, quand il pourra y avoir de l'autre côté un État éclairé, véritablement éclairé, je ferai de mon mieux pour qu'on enlève les
barbelés.
De même qu'il n'y a plus de barbelés entre la Belgique et la France. La clôture est un obstacle entre notre peuple d'une part, qui veut la paix, et un peuple qui aspire à l'indépendance par des moyens terroristes, plutôt que d'accepter de négocier autour de la table et d'en finir une fois pour de bon avec le conflit.
Un honnête homme, le patron de Maserot à Netivot, un brave type qui reflète
probablement l'opinion générale des Israéliens aujourd'hui. Voilà, il faut se séparer, et puis voilà, c'est, il faut commencer par se séparer, puis peut-être que par la suite ça s'arrangera, mais il faut commencer par là. Il en est convaincu, il est absolument honnête, il n'y a pas d'arrière-pensée dans la pensée d'un homme comme celui-là, et seulement a-t-il raison, ça c'est autre chose. Il faut dire que cette que la construction de ce mur tout autour de la Cisjordanie, non pas sur la fameuse ligne verte de 1967, mais comme on l'a dit, comme vous le savez, largement à l'intérieur, ce qui constitue une spoliation du territoire de la Cisjordanie, du territoire palestinien, eh bien, cette la construction de ce mur, ou comme on voudra, de cette clôture, fait du côté israélien, dans l'opinion, visiblement, aujourd'hui, l'unanimité, ou presque l'unanimité. On a une gauche, une extrême gauche, qui n'est une frange de la gauche et une extrême gauche qui n'est pas du tout d'accord. Et puis, on a une extrême droite qui n'est pas d'accord non plus, notamment les colons, bien évidemment, qui craignent que cette clôture ne marque, malgré tout, la reconnaissance de l'existence d'un État palestinien, fut-il réduit à la taille d'un confetti ou de quelques confettis ou d'un bantoustan ou de quelques bantoustans. Voilà où en est l'opinion. Mais je pense que le patron de Maseroth, un équivote, représente l'opinion moyenne. Quel est le parcours de ce patron qui regarde ses ouvriers travailler, des Russes, des Marocains, enfin des Israéliens d'origine russe et des Israéliens d'origine marocaine? Question.
Depuis quand vous êtes là?
Pendant la Tapo, il est né là.
Ah, vous êtes là?
Je suis né là.
En Bulgarie, en 1937.
Ils sont venus de Bulgarie en 37.
Le kibbutz de Tzvonaret.
Ils sont allés s'installer dans un kibbutz dans le nord du pays.
Le kibbutz est chayach le tnoat ha-smol ha-israélite.
Un kibbutz de la gauche israélienne.
Aïma sheli chaya hayom ha-kibbutz.
Ma mère vit encore dans le kibbutz.
Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit, votre mère, là, quand elle sait que votre, son fils est en train de fabriquer des barbelés pour mettre?
Elle est entièrement en accord avec moi, elle pense de la même façon. Il faut évacuer une partie importante des territoires occupés.
Il faut évacuer les territoires.
Une grande partie des territoires. Et se séparer. Et après, s'ils arrivent à construire une société qui est prête à faire une paix véritable avec nous, s'il vous plaît, avec plaisir, bienvenue. Il ne faut pas être un occupant. En aucun cas, il faut que nous soyons des exploiteurs d'une main-d'œuvre bon marché. Il faut leur donner tous les moyens pour une véritable indépendance. Mais ceci par étapes.
Donc vous êtes entièrement d'accord avec ce que vous fabriquez, même idéologiquement, vous êtes d'accord avec ce que vous fabriquez, c'est presque les barbelés patriotiques, les concertinas patriotiques.
Absolument, tout à fait.
Je
pense que faire une clôture, c'est un acte patriotique.
La clôture patriotique.
Et
moi, j'ai fait 4 guerres.
Et
j'étais officier supérieur à l'armée.
Voilà, on s'en doutait.
Et par expérience, je sais qu'aucune occupation
et
aucune domination sur un autre peuple ne peut pas nous servir, ça peut que nous faire du dommage.
Un peuple qui occupe un autre peuple n'est pas un peuple libre.
Tu as entièrement raison.
C'est pas moi, c'est Jaurès.
Agam. Mais
qu'est-ce que De Gaulle a fait chez vous?
Il
hurlait Algérie française, Algérie française. Mais lorsqu'il a pris le pouvoir, il a été ceux qui ont sorti de l'armée du pouvoir français d'Algérie. Parce qu'il avait déjà compris
qu'on
ne peut pas dominer un autre peuple.
Et on
ne peut pas vivre au sein d'un autre peuple.
Il
faut garder l'identité nationale pour nous et pour eux.
J'ai vu que vos ouvriers là sont souvent des Russes.
Très vrai, une grande partie d'entre eux.
Et pourquoi vous avez pris des Russes?
La main d'œuvre disponible aujourd'hui en Israël, c'est essentiellement des immigrants de Russie. Et comme ils sont arrivés très récemment, de Russie, ils cherchent du travail. Et on les accepte comme un acte d'absorption.
C'est un mode d'intégration.
Tout à fait. Mais pour un Russe qui est arrivé ici il y a 2 ou 3 ans, il croit encore à la politique de force. Moi, je n'y crois pas.
Les Russes qui arrivent sont plus à droite que vous.
Pour l'instant, une grande partie d'entre eux. Ceux qui sont venus récemment. Mais plus longtemps ils vivent ici, c'est par les fesses. Ils apprennent. Et petit à petit, ils évoluent vers le centre et vers la gauche. Comment est-ce qu'ils apprennent ça? Leur enfant va par exemple à l'armée. Il est blessé. Et d'un coup, ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'il est blessé? Pour protéger quelques psychopathes qui sont sur les collines. Et alors, le Russe commence à se poser des questions. C'est à nous? Est-ce que c'est occupé? Quelle est la solution? Quelle est la situation démographique? Et ce même Russe, et le Russe qui devient ancien, et évolue de la droite vers le centre. À la fin du processus, on aura une majorité pour un processus de paix réel. Parce qu'il n'y a aucune chance, dans ce monde pour la droite radicale.
Mais quand même, quand on vous dit que c'est de l'apartheid, cette frontière, qu'est-ce que vous répondez?
C'est pas vrai. On est prêt non seulement à construire une barrière, mais aussi à se retirer des colonies, alors c'est plus de l'apartheid. Mais s'il y a une clôture, mais nous on continue à vivre dans la moitié de la Cisjordanie, alors tu as raison.
Quelle garantie vous avez du retrait des territoires?
Parce que la réalité est plus forte que n'importe quoi d'autre. Nous n'avons pas le droit de dominer un autre peuple. Parce que dominer un autre peuple, c'est de la corruption. C'est du sentiment de supériorité. C'est l'exploitation. C'est marcher sur les autres. Et c'est une très mauvaise éducation pour nos enfants. Et en aucun cas, on a le droit de faire cela. Il faut donner aux Palestiniens une chance. Pour une vie meilleure, parce que seul celui qui vit une vie décente ne jette pas des bombes.
Pour l'instant, votre discours doit avoir du mal à passer parmi les Palestiniens des territoires. J'espère que vous avez raison, mais je crains que la barrière ne fabrique de la haine du côté palestinien plus que de la sagesse.
La clôture est en substance une ligne de démarcation entre nous et les Palestiniens. Et pour les Palestiniens, il y a un dommage, sans aucun doute, dans la construction de cette clôture. D'abord, parce que leur capacité de manœuvrer se rétrécit, et ensuite, ils auront moins de facilité pour travailler chez nous.
J'espère qu'un jour, vous pourrez enlever ces barbelés quand même.
Moi, je serai le premier à le faire.
Ah ouais. Ce jour-là, vous nous appelez, on vient boire le champagne.
Bienvenue.
Et quand même, le patron de l'entreprise Masorot à Netivot, dans le sud d'Israël, n'avait pas la technique pour enlever les barbelés. Il savait pas très bien comment les enlever. Les mettre, oui. Les disposer, oui. Ça, alors là, très vite, très efficacement. Mais la technique pour les enlever, il la connaît pas vraiment.
En tous les cas, merci à lui. C'était le point de vue d'un honnête homme israélien sur ce mur, sur ses raisons d'être et sur les espoirs qu'on peut placer dans cette barrière de sécurité. Un autre point de vue, maintenant, celui d'Ilan Halevi. Ilan Halevi, c'est un personnage tout à fait singulier, qui est en fait un diplomate palestinien. Ilan Halevi, diplomate palestinien, il porte un nom juif, il est de culture, il a vécu en France, il a grandi en France, il parle français, arabe, hébreu, anglais, italien, espagnol, et il est vice-ministre des Affaires étrangères du gouvernement, de l'actuel gouvernement palestinien. C'est à Ramallah qu'on l'a rencontré, et il nous a donné son point de vue et ses explications autour de ce mur. C'est donc un point de vue palestinien au pied du mur.
Le concept de séparation a commencé à intervenir en fait dès le début du processus de paix. Il faut d'ailleurs rendre à César ce qui lui appartient. Le grand promoteur du concept de séparation dans la période récente, c'était Yitzhak Rabin, qui a commencé à parler de séparation, et le mot utilisé en hébreu, afrada, est un mot qui indique l'action de séparer, pas l'état de ce qui est séparé. C'est un verbe actif, c'est-à-dire c'est une forme active du verbe afrada. Ça n'est pas comme l'auto-séparation qu'on traduirait en hébreu par hipardout, qui est la même racine avec une autre construction. Parce que quand on dit hipardout, c'est-à-dire se séparer soi-même, on peut considérer que la séparation est une métaphore sur l'autodétermination, sur l'indépendance. Comme chez Lénine qui parlait du divorce comme métaphore de l'autodétermination des peuples. Il entendait divorce par consentement mutuel ou quand un des conjoints maltraite l'autre. C'est celui qui est la victime qui a le droit de s'auto-séparer, ce qu'on appelait le droit à la sécession. Le mot utilisé en hébreu pour séparation, afrada, n'a rien à voir avec sécession. Il désigne l'acte de celui qui sépare. C'est un acte unilatéral. Sous Barak, le concept s'est beaucoup aggravé parce que Barak avait remplacé le concept de séparation, tout court, par séparation physique. Il disait toujours la séparation physique, sans doute parce qu'il avait peur qu'on prenne ça pour une métaphore. Alors, on était à l'époque encore de la soi-disant bonne volonté à mettre en application les accords d'Oslo, les accords intérimaires qui devaient mener à l'évacuation des territoires occupés, à la création d'États palestiniens indépendants et à l'établissement de la paix. Il y a à l'époque, dans la profusion de propositions techniques pour la séparation, parce que ça s'était posé dès le début, quand les Israéliens faisaient encore mine de vouloir mettre en œuvre les clauses des accords d'Oslo parlant de passage garanti entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. Donc, ils avaient envisagé toutes sortes de solutions, un tunnel entre la Cisjordanie et Gaza, ou un pont très élevé dont on ne pourrait pas descendre. L'essentiel étant que les Palestiniens puissent aller de la bande de Gaza à la Cisjordanie sans entrer sur le territoire israélien, sans être physiquement sur le territoire israélien. Ça, c'est un exemple de la philosophie de la séparation. Alors, il y en avait qui voulaient des ponts, il y en avait d'autres qui voulaient des tunnels, il y en avait même... Et alors, un peu plus tard, quand il s'est agi d'établir une séparation de façon unilatérale, selon un tracé que les Israéliens décideraient pour leurs besoins propres et hors de toute négociation, puisque là, on a commencé à rajouter le concept de séparation unilatérale. Alors, c'est-à-dire sans, en l'absence d'accord, ce qui a fait progresser l'idée de séparation. Bon. Et alors, il y a un officier de l'armée israélienne, avec beaucoup d'imagination, a même parlé de la possibilité d'établir un grand fossé avec des crocodiles.
Vraiment, vraiment.
Les crocodiles, ouais, ça a été dans la presse israélienne, c'était un officier de l'armée, il n'a pas été mis sous observation psychiatrique après cette déclaration. Il n'y a pas, ça n'a pas soulevé de tollé, ça a fait sourire quand même quelques citadins, même en Israël, mais dans l'ensemble, c'est passé aux pertes et profits de l'imagination
politique
séparatrice. Et puis ensuite, quand Sharon est venu, et que sur l'arrière-plan, de l'échec calculé, de l'échec concerté et planifié des conversations de Camp David, puisqu'on se souvient que Barack, en revenant de Camp David, quand la droite lui a dit « Mais tu as proposé tellement, tu as été trop généreux », il a dit « J'ai rien proposé du tout, je suis allé là-bas démasquer Yasser Arafat ». Et comme c'est vrai que comme il avait fixé le principe d'emblée qu'il n'y a d'accord sur rien tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout. Chacune des propositions dites généreuses prises individuellement n'a jamais été un engagement, puisqu'elles étaient toutes liées à des conditions impossibles. Et on peut toujours proposer la Lune si on demande toute la Voie lactée en échange. C'est vrai que la séparation est une idée plus travailliste que nationalistes de droite, parce que les nationalistes de droite n'ont jamais eu peur de l'idée d'une minorité de juifs dominant toute la région, ou du colonialisme classique, alors que les travaillistes ont toujours été très, très soucieux de démographie et de la séparation qui leur permettrait d'avoir une colonie démocratique à l'intérieur. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'indigènes, il n'y a pas d'oppression des indigènes. Depuis le début, le mouvement travailliste à lutter pour expulser les Palestiniens, pas pour les exploiter. Ils ne voulaient pas leur force de travail, puisqu'ils voulaient créer une société du travail hébreu en terre d'Israël. Donc leurs objectifs sociaux et politiques étaient l'expulsion de la main-d'œuvre palestinienne du marché du travail, pour créer un marché du travail juif, et spatialement l'expulsion des Palestiniens de façon à créer un État juif qui soit également démocratique, puisqu'il n'y aurait que des juifs dedans. La démocratie ne mettrait pas en question son caractère juif, tandis que s'il y a des Arabes, surtout une majorité, l'État ne peut pas être à la fois juif et démocratique. Il faut se souvenir quand même que la première proposition d'expulsion massive des Palestiniens de leur territoire a été formulée par le congrès du Parti travailliste britannique en 1936, comme une idée socialiste. Deux États, avec transfert de la population arabe, de la portion de territoire allouée aux juifs, vers la portion de territoire allouée à l'État arabe. C'est ce qui a eu lieu par la force à grande échelle en 1948. Donc la séparation physique, la séparation par la violence, dans la violence, la séparation-expulsion, elle est constitutive du projet sioniste.
Jabotinsky avait une idée avec sa muraille de fer.
Oui, mais l'idée de Jabotinsky était différente. Jabotinsky, justement, appartient à cette école de droite pour qui la démographie n'était pas un obstacle majeur et qui donc, il appartient à un courant, l'ancêtre du Likoud, qui a toujours considéré comme normal, dans une perspective coloniale digne du 18e, 19e siècle, qu'une poignée de colons d'origine occidentale domine des milliards d'indigènes. Donc, le mur est en train de se construire autour de cette philosophie, et il l'incarne dans le béton. Alors, il incarne aussi le chauvinisme simpliste, primitif, infantile de l'opinion israélienne. C'est-à-dire l'idée que, au XXe siècle, un mur peut avoir une efficacité. La muraille de Chine est depuis longtemps une pièce de musée. Le mur de Berlin est tombé littéralement dans la poubelle de l'histoire. On construit un mur en s'imaginant que ça va régler quelque chose, qu'on peut régler quelque chose. Alors il y a toutes les implications pratiques du mur. Hein. Je veux pas les implications idéologiques et symboliques, elles sont là. Le mur est une catastrophe humaine, économique, sociale, écologique, pas seulement une abomination philosophique. Le mur transforme le paysage en cour de prison, de toute façon, physiquement, là où il est mûr surtout.
Mais qui est enfermé, qui est enfermé?
Mais dans une certaine mesure, les deux. Dans une certaine mesure, les Israéliens sont enfermés dans un espace qui est beaucoup plus grand et à l'intérieur duquel ils se meuvent librement. Mais c'est quand même une fermeture de l'espace. Qu'ils l'acceptent avec autant d'enthousiasme et quelque part l'expression d'une détresse morale collective grave et profonde, à mon sens.
Comment on reçoit ça du côté palestinien, dans l'opinion palestinienne?
Dans l'opinion palestinienne, le mur est à la fois une annexion flagrante de plus de la moitié du territoire de la Cisjordanie, puisque ce qui sera en deçà du mur, du côté israélien du mur, sera de fait annexé. Donc il s'agit d'annexion d'une partie importante du territoire cisjordanien, il s'agit d'un mur qui entrave totalement la circulation vers non seulement vers Israël et la ligne verte, mais vers toutes les zones palestiniennes qui vont se trouver de l'autre côté du mur. C'est-à-dire que ça sépare des villageois de leurs champs, des gens de leur lieu de travail. La vie économique, sociale, humaine, familiale des Palestiniens est totalement perturbée par le mur de part et d'autre. Et puis, le mur anticipe totalement, réduit à néant, l'objet d'une négociation sur les frontières. Donc, c'est la raison pour laquelle l'administration américaine est très très opposée au mur. Les Palestiniens ont protesté contre le mur d'emblée, mais les Palestiniens protestent contre le mur dans le cadre d'une protestation ininterrompue contre la colonisation. Le mur n'est pas le début, c'est pas que jusqu'au mur tout était idyllique. C'est-à-dire d'abord, même avant la construction du mur, la liberté de circulation n'existe plus depuis très longtemps. Le bouclage est absolu, l'état de siège est permanent, les routes ont été fermées par des blocs de béton, par des tertres de terre, et l'apartheid routier existe depuis le début des accords. Le système des permis et des barrages, d'ailleurs, la fermeture de Jérusalem au reste de la Cisjordanie, tout ça date d'avant les accords d'Oslo, mais de mars 93 en gros. Mais ça avait commencé à être mis sur pied à l'occasion du couvre-feu de la première guerre du Golfe et dans la répression de la première intifada. Donc il y a une escalade de l'entrave permanente et multidimensionnelle à la circulation des Palestiniens, avec des hauts et des bas. C'est devenu de plus en plus systématique. Donc le mur est une aggravation de tout ça. C'est une aggravation et ce qui est le plus spectaculaire dans cette aggravation, c'est même pas la confiscation des terres sur lesquelles le mur lui-même repose, parce que depuis 10 ans, les Israéliens n'ont pas arrêté de construire un réseau routier énorme de routes dites de contournement, donc de routes séparées, de routes pour colons, de routes qui relient les colonies entre elles et qui sont étanches au réseau routier palestinien et dont aucune route latérale ne sort pour se relier au village ou aux villes palestiniennes. Donc il y a toute cette apartheid de béton n'a pas commencé avec le mur, il a commencé avec les routes. Mais il est la suite de la construction des colonies, qui n'a pas arrêté de s'accélérer au cours des dernières années.
Voilà, au pied du mur, ça c'était donc Ilan Halevi, diplomate palestinien, qui donnait à la fois une analyse et son point de vue. Merci à tous, on continue demain le voyage au pied du mur. Reportage Guy Vanctil, technique aujourd'hui Lydvin Caron et Olivier Daligo, assistante Anne de Giaferi, répondeur Christophe Imbert. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, musique Koy Nguyen, montage Yann Chouquet et Dila Tebi, un livre sur le barbelé, histoire politique du barbelé, Olivier Razak aux éditions La Fabrique. C'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. On se retrouve demain à 18h, là-bas si j'y suis, Israël au pied du mur. Je vous laisse pour le journal avec Delphine Simon. Salut!